Ici, nos pensées, nos émotions, une fois qu'on les partage en groupe, elles ne nous appartenaient plus vraiment.
Mm.
Si tu vois, dans un stade de foot ou même juste en famille, elles se mettaient à fusionner pour créer une sorte de champ d'énergie invisible.
Une entité collective avec sa propre volonté ?
Exactement. C'est une idée qui est à la fois fascinante et un peu vertigineuse, je trouve.
Complètement.
Et c'est justement ce concept qu'on va explorer aujourd'hui, celui d'Egrégore.
C'est ça.
Pour ça, on a regardé pas mal de sources. D'un côté, des approches très spirituelles, comme un article super détaillé de Sophie Vitali, et de l'autre, on a mis ça en miroir avec des concepts plus psychologiques.
Comme l'inconscient collectif de Carl Jung, par exemple.
Voilà. Notre but, c'est de décrypter ce qu'est un égrégore, de voir comment ça se fabrique, et surtout, de comprendre comment ça nous influence au quotidien.
Pour le meilleur, et parfois pour le pire.
Alors, pour commencer, si on devait expliquer ça simplement, c'est quoi un égrégore ?
La définition la plus directe, c'est une sorte de forme-pensée, ou une conscience collective, si tu préfères.
D'accord.
Imagine une sorte de nuage invisible qui est alimenté par les pensées, les croyances et surtout les émotions de tout un groupe.
Mmh.
Et une fois que ce nuage y devient assez dense, il commence à avoir sa propre vie. Et en retour, il va influencer les gens qui l'ont créé.
C'est un courant qui peut nous porter, quoi.
Exactement. Il peut nous porter ou nous emporter.
D'accord. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça a l'air très moderne comme idée. Mais en fait, pas du tout.
Ah non, pas du tout. Et c'est là que ça devient passionnant. L'origine du mot lui-même, ça remonte au grec ancien egrégoroi.
Egrégoroi.
Oui, ça veut dire les veilleurs. On retrouve ce terme dans des textes très anciens, comme le livre d'Enoch.
Ah oui, donc on est bien avant le développement personnel et le New Age.
Très très loin avant. Dans ce contexte-là, les égrégoroi, c'était des sortes d'entités angéliques qui veillaient sur l'humanité.
D'accord. Et le concept moderne, il apparaît quand ?
Il est vraiment formalisé au XIXe siècle, en pleine période de l'occultisme. Des gens comme Eliphas Lévy ou des sociétés secrètes comme la Golden Dawn.
La fameuse Golden Dawn.
Voilà. Ils utilisaient ce terme pour décrire la force psychique qui était générée par leur cercle d'initiés. Pour eux, les rituels, les symboles, tout ça créait une entité qui protégeait le groupe.
Et le lien avec la psychologie alors ? Parce que j'imagine que Carl Jung, lui, ne parlait pas de rituels occultes.
Non, bien sûr. Mais sa notion d'inconscient collectif est incroyablement proche. C'est là que les sources se rejoignent, en fait.
C'est-à-dire ?
Jung parlait d'une mémoire psychique partagée par toute l'humanité, pleine d'archétypes, tu vois, le héros, le sage.
Oui.
Ces archétypes influencent nos rêves, nos comportements. La grande différence, c'est que pour Jung, c'est quelque chose d'inné, de quasi universel.
D'accord, un héritage.
C'est ça. Alors que l'égrégore, lui, il est créé activement par un groupe spécifique. Il n'est pas universel, il est local. C'est une construction.
Ok, la distinction est très claire. Alors justement, comment on le construit, cet égrégore ? Si l'article de Sophie Vitali donne une recette, je suis preneur.
La recette est assez précise. Il y a trois ingrédients essentiels qui doivent être là. Le premier, c'est des pensées focalisées et répétées.
C'est-à-dire qu'une seule personne qui pense très fort à un truc, ça ne suffit pas.
Non. Une idée seule, c'est une étincelle. Mais quand des milliers de personnes pensent la même chose encore et encore, une prière, un objectif d'entreprise, l'énergie commence à s'agréger.
Ok, ça prend de la consistance. Et le deuxième ingrédient, j'imagine que ce sont les émotions.
Exactement. Les émotions collectives intenses, c'est le carburant. La pensée, c'est assez froid en fait. Mais l'émotion, c'est ce qui donne sa puissance à l'égrégore.
Comme la joie dans un stade de foot.
Exactement. Ou la peur partagée face à une crise, la colère dans une manif. Ces vagues émotionnelles, ce sont de vraies décharges d'énergie qui nourrissent le truc.
Et le troisième pilier, qu'est-ce que c'est pour que tout ça tienne ?
Ce sont les rituels et les symboles communs. Ce sont les points d'ancrage.
Un drapeau, un logo.
Oui, ou un hymne, un slogan, une cérémonie. À chaque fois que les membres interagissent avec ce symbole, ils se reconnectent à l'énergie collective.
Et ils la renforcent. C'est comme un interrupteur.
C'est fou, parce que ça crée une sorte de boucle, en fait. On nourrit les égrégores, et en retour...
Ils nous influencent.
C'est exactement ça. Une boucle de rétroaction. Plus le groupe met d'énergie, plus l'égrégore devient puissant. Et plus il est puissant, plus il va uniformiser les comportements du groupe.
C'est l'effet boule de neige.
C'est ça. C'est pour ça qu'on peut littéralement sentir l'ambiance d'une entreprise. Dans une culture positive, l'égrégore te tire vers le haut. Dans une culture toxique, il te pompe ton énergie.
D'accord. Donc si je comprends bien, on est tous membres de plein d'égrégores différents sans le savoir. Entre la famille, le boulot, le club de sport...
C'est précisément ça. Ils sont partout. On peut les classer en grandes familles, si tu veux. Les plus anciens, ce sont les égrégores religieux et spirituels.
Ah oui, là c'est évident. Des siècles de prières au même endroit.
Voilà. Pense à l'énergie accumulée à la Mecque ou au mur des Lamentations. C'est tellement dense que même des non-croyants peuvent la ressentir.
Et ensuite, il y a les égrégores politiques et idéologiques.
Oui, là, les symboles sont partout. Les drapeaux, les hymnes, les slogans répétés en chœur. Tout est fait pour unifier la pensée et créer une identité de groupe très forte, souvent en opposition à un autre.
Et il y a une catégorie qui est peut-être plus moderne, mais redoutable. Ce sont les égrégores d'entreprises et de marques.
Ah oui, l'analyse de ce phénomène est fascinante. Une culture d'entreprise forte, c'est en fait un égrégore puissant, basé sur des valeurs, une mission et plein de rituels. La réunion du lundi, le séminaire annuel.
Attends, ça veut dire que la file d'attente de 200 personnes devant un Apple Store pour le nouvel iPhone, c'est un rituel qui nourrit un égrégore.
C'est une illustration parfaite. Ils partagent la même pensée, la même émotion d'excitation et ils participent à un rituel. Ils n'achètent pas juste un téléphone.
Ils réaffirment leur appartenance à la tribu Apple.
C'est ça. C'est une loyauté quasi religieuse.
Et à plus petite échelle dans la sphère privée, j'imagine que ça existe aussi.
Oui, et c'est peut-être là que c'est le plus subtil. L'égrégore familial. Il est tissé par des générations d'histoires, de traditions, de secrets, de loyauté invisible. On a tous connu ce dîner de famille où quelqu'un lance un sujet tabou.
Et d'un coup, un silence glacial.
Voilà. L'ambiance devient pesante. Personne ne dit rien. Mais tout le monde sent cette chose dans la pièce. C'est l'égrégore familial qui impose ses règles.
Et le dernier, qui a dû exploser ces dernières années, c'est l'égrégore numérique.
Ah, celui-là, il est tentaculaire. Il naît dans les communautés en ligne, les forums, les groupes sur les réseaux, les hashtags, les mèmes, ce sont les rituels modernes.
Ça peut aller à une vitesse folle.
Un égrégore numérique peut naître et devenir mondial en 24 heures. Il peut être hyper créatif ou, alors, une force de harcèlement terrible.
Bon, alors, on baigne en permanence là-dedans. La question, c'est comment on sait si un égrégore est bon pour nous ? Est-ce que c'est un soutien ou une prison ?
C'est le cœur du sujet. Un égrégore devient toxique dès qu'il commence à écraser l'individu. Les sources donnent des signaux d'alerte assez clairs.
Lesquels ?
Le premier, c'est quand on n'ose plus exprimer un avis différent, par peur d'être rejeté, quand la pensée unique s'installe.
Le fameux « si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous ».
Exactement. Un autre signe, c'est l'utilisation de la peur ou de la culpabilité pour contrôler les gens.
Un vrai membre de notre famille ne ferait jamais ça.
Voilà, c'est ça. Et enfin, un égrégore toxique va toujours s'isoler de la critique en diabolisant le monde extérieur.
En gros, l'égrégore sain soutient l'individu, le toxique l'étouffe.
C'est ça.
Et là, on touche au risque de manipulation. En politique ou dans le marketing, on peut activer volontairement un égrégore pour orienter les gens.
Bien sûr, c'est de l'ingénierie sociale. Tu martèles un message simple, tu y associes une émotion forte, comme la peur, tu crées des rituels de ralliement et tu peux modeler l'opinion.
Le tableau est un peu sombre, mais j'imagine qu'on peut aussi créer consciemment des égrégores positifs.
Heureusement, oui. Et c'est un point crucial. Un égrégore créé autour de valeurs comme l'entraide, la créativité, la bienveillance, ça peut devenir un catalyseur de transformation hyper puissant.
L'élan du groupe qui te porte.
Précisément. Ça démultiplie les efforts de chacun. C'est l'idée derrière les groupes de mastermind ou les collectifs d'artistes. L'intelligence collective résout des problèmes qu'une personne seule ne pourrait pas.
Surmonter, oui.
Et il y a un effet miroir qui est très fort. Dans un groupe bienveillant, les autres te renvoient une image positive de toi. Et ça accélère l'évolution personnelle.
D'accord. Donc si on se sent coincé dans une ambiance de groupe qui nous tire vers le bas, on n'est pas condamné à subir. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
La toute première étape, la plus importante, c'est la prise de conscience.
Juste se rendre compte du truc.
Oui. Commencer à s'observer, se poser la question face à une émotion forte. Est-ce que cette colère, cette peur, est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce que je ressens l'émotion du groupe ?
Ça crée une distance.
Exactement. Tant que c'est invisible, on ne peut pas y résister. La lucidité, c'est le début de la liberté.
Et une fois qu'on a cette lucidité, il y a des actions concrètes.
Pratiques pour nettoyer sa propre énergie. Le plus cité, c'est la méditation ou n'importe quelle pratique qui permet de se recentrer.
Pour revenir à soi.
C'est ça. Pour réentendre sa propre musique intérieure. Une autre technique, c'est l'écriture intuitive.
Ah oui.
Tu prends une feuille et tu écris tout ce qui te passe par la tête, sans filtre. Ça aide énormément à démêler tes propres pensées de celles que tu as absorbées du collectif.
Et j'imagine un truc plus moderne, la diète numérique.
Le silence numérique, oui. C'est essentiel. Se couper des réseaux sociaux ne serait-ce que quelques heures. C'est littéralement fermer le robinet de certains des égrégores les plus frénétiques.
Le but, donc, ce n'est pas de devenir un ermite.
Non, absolument pas. On a besoin des groupes. Le but, c'est de passer d'une posture où on subit à une posture où on choisit consciemment.
Se demander si un groupe nous élève ou nous vide.
C'est ça. Devenir un investisseur conscient de sa propre énergie.
Si on devait résumer, l'égrégore, c'est donc ce champ d'énergie collective, invisible mais bien réel, qui peut nous porter comme il peut nous enfermer.
Et le message principal de toutes les sources, c'est le pouvoir du discernement. Comprendre ces dynamiques, même si on ne les voit que comme une métaphore, ça donne des clés pour naviguer plus intelligemment dans nos relations.
D'ailleurs, les textes finissent souvent sur une idée assez responsabilisante. Passer du statut de victime des égrégores à celui de co-créateur conscient.
Réaliser qu'avec nos pensées, nos actions, on contribue à la qualité de l'énergie de chaque groupe.
Et ça nous laisse avec une dernière question, une piste de réflexion pour chacun. Sachant que notre bien-être est lié à l'énergie des collectifs qu'on fréquente, quelle est la qualité de l'énergie que nous choisissons de nourrir et que nous contribuons à créer chaque jour dans chacun de nos cercles ?